Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leur projet d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Klein. Alors Guillaume est entraîneur plutôt spécialisé dans les épreuves très longues, les épreuves de fond. Guillaume, je te laisse te présenter ton parcours, ta pratique, qui tu es un petit peu.
Ben, salut Nicolas, déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir. On avait échangé via message par rapport aux différents podcasts que tu produis. Ben, je te félicite pour le contenu parce que c'est toujours intéressant la diversité de personne que tu peux avoir sur ton podcast. Voilà.
Merci, ça me correspond aussi.
Donc moi, c'est Guillaume Klein, je suis coach, alors spécialisé, je le dis toujours, en ultra-endurance. J'accompagne des athlètes qui réalisent des projets alors plutôt longs, voire très longs, et sur la partie entraînement, mais aussi nutrition et préparation mentale. Alors ça peut être des personnes qui font du trail, ça peut être des personnes qui font du cyclisme, mais ça peut être aussi de l'ultra-trail ou de l'ultra-cyclisme. Donc, j'ai un panel assez large. J'ai même eu triathlète Ironman, un petit peu de marathon ou des choses comme ça, mais c'est vraiment orienté quand même sur le très, très long. Voilà.
Du coup, tu accompagnes plutôt les gens dans la globalité, ce qui fait peut-être sens, parce que plus les distances s'allongent, plus... C'est encore plus prégnant que le mental est lié avec le physique et que la nutrition est beaucoup liée avec le physique aussi. Je pense que c'est pour ça que tu as ce genre de triple casquette, on va appeler ça comme ça.
Ben, tout à fait, parce que en fait, je me suis rendu compte, tu vois, quand j'accompagnais, par exemple, juste sur la partie entraînement, ben, il manquait un rouage. Ou juste sur la partie nutrition, ben, il manquait d'autres rouages aussi. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, j'accompagne juste des personnes sur l'entraînement. Enfin, selon leur budget, on va adapter. Mais effectivement, la meilleure manière d'avoir des résultats aujourd'hui, c'est de coupler un petit peu tout ça et d'avoir cette nutrition, cet entraînement et aussi cet accompagnement mental qui permet d'accompagner le sportif dans sa globalité, quoi.
D'accord, ok. Et t'as aussi un podcast, parce que justement, on a discuté en rigolant l'autre fois. Je t'ai déjà entendu quelque part, je ne sais pas où. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, effectivement, c'était tout bêtement dans ton propre podcast, si tu veux en dire plus dessus.
Ouais, tout à fait. Alors ça, j'ai démarré maintenant il y a un peu plus d'un an. Donc ça s'appelle Ultra Endurance Podcast. Et donc, j'interviens sur divers sujets, toujours autour de l'ultra endurance, avec la nutrition, l'entraînement et la préparation mentale. Donc, tous les podcasts sont disponibles sur les plateformes et je les mets aussi... en YouTube, du coup, donc c'est possible d'aller voir tout ça directement.
D'accord. Et ça va peut-être être différent des autres, quoique on ne sait pas. Ma question un peu fil rouge, ta définition de l'endurance en quelques mots à toi, ça serait quoi?
Alors, elle est assez large, je dirais. Voilà, un petit peu comme tout le monde, c'est sa capacité, on va dire, à produire, maintenir le meilleur niveau d'intensité possible sur un temps d'effort donné plus ou moins long. Et moi, je l'associe à des facteurs de durabilité, de résistance, avec le côté physique et mental, en fait. Donc, selon l'effort, on va davantage utiliser l'un ou l'autre des critères ou des aptitudes. Et plus l'effort, il est long, on va dire, et plus la part de mental, il a une importance toute particulière. Et maintenant, il faut savoir aussi que les deux sont liés, le physique et le mental, grâce à une bonne préparation physique, on va dire, on va pouvoir avoir de meilleures aptitudes au niveau mental parce qu'on va, par exemple, savoir ce que c'est la douleur provoquée à l'effort, etc., etc. Donc, on va mieux appréhender cette douleur-là. Et donc, plus on est prêt physiquement, moins on aura justement ces problématiques-là. Et donc, plus on sera fort, durable et résistant mentalement aussi, quoi.
D'accord. Et je pense que plus on est dans le bon mindset, on va appeler ça comme ça mentalement, plus on va être aussi capable d'aller s'entraîner et d'aller faire ces séances qui sont difficiles aussi. C'est peut-être aussi pour ça que c'est lié.
Tout à fait, tout à fait. Donc, par exemple, particulièrement dans l'ultra-endurance, dans les efforts très, très longs, il faut savoir, on parle toujours du fameux pourquoi, il faut savoir exactement pour quelles raisons on fait ces efforts-là. Et donc, une fois qu'on a identifié tout ça, ben effectivement, il est plus facile d'aller réaliser ces entraînements qui sont difficiles, quoi.
Ouais, ok, je vois tout à fait. Ça fait beaucoup sens parce que souvent, on oppose la préparation physique à l'entraînement. Enfin, on oppose. On fait des cases. La préparation physique à l'entraînement spécifique, la préparation mentale à la préparation physique. Et souvent, les gens ont des solutions en disant il manque de mental ou il manque de physique, il manque de ci, il manque de ça. Alors qu'en fait, on parle quand même vraiment, et au-delà de l'ultra-endurance d'ailleurs, je pense, d'un schéma global.
Ben, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en entraînant son physique, automatiquement, on va développer des aptitudes et des habiletés mentales. Donc, on travaille l'un avec l'autre, tu vois. Donc, c'est important de... Moi, je parle plutôt d'un continuum des deux et les deux sont vraiment liés plutôt que de les opposer. Et c'est vrai que tu as raison, on a tendance toujours à vouloir mettre des cases. Ah ben oui, il a le physique, mais pas le mental, ou il a le mental, mais pas le physique. Et en fait, on se rend compte que les deux sont vraiment interliés tout le temps, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais j'ai rigolé dernièrement parce qu'à l'époque où on enregistre, là, c'est peu après Roland Garros. Et j'en parlais sur le podcast avec Valentin Allier qui bosse avec un tennisman russe qui est top 100 mondial. Et je lui disais, moi, ce qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est que beaucoup de préparateurs mentaux ont fait des analyses de Roland Garros que les Français manquaient de mental. Et qui, comme s'il suffisait d'un coup de baguette magique, de leur amener de la préparation mentale pour que tous les problèmes s'estompent. Et quand on connaît un peu le sport, ça me paraissait vraiment réducteur. Alors après, ils ont des choses à vendre aussi, évidemment, mais je pense qu'il faut vraiment, je tirerai dans mon sens ou pas, mais vraiment raisonner dans cette globalité. Et c'est pas un ingrédient qui va tout révolutionner.
Bah, tout à fait. Et c'est comme je dis à tout le monde, c'est-à-dire que moi j'appelle ça une pyramide de la performance, mais la base, c'est tu as beau avoir la meilleure des préparations mentales, tu as beau avoir la meilleure des nutritions, le meilleur sommeil, enfin tous les outils de récupération, si la base tu t'entraînes pas, enfin, je veux dire, tu performeras pas, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de tout mettre ensemble pour justement avoir cette pyramide de la performance qui est positive.
Mais justement, on va y revenir avec la première vraie question. Un vrai spécialiste comme toi, en ultra trail ou en grand fondo, donc en vélo, c'est des efforts qui sont vraiment très longs. On peut quand même difficilement le reproduire à l'entraînement, ou en tout cas pas souvent. Et pour toi, c'est quoi les stratégies qui permettent de se préparer le jour J? Parce que souvent, dans les sports co, par exemple, la logique d'entraînement maintenant, elle est que l'entraînement de la semaine doit être supérieur à l'intensité du match pour se préparer. On se doute bien que pour un ultra trail ou un grand fond d'eau, c'est très compliqué de faire ça parce que c'est très coûteux. Alors, quel genre de petites astuces ou de petites stratégies tu peux donner par rapport à tout ça?
Alors déjà, il y a plusieurs critères dans ce que tu dis là. C'est-à-dire que, tu vois, ça va être différent, par exemple, de quelqu'un qui va préparer un ultra trail ou quelqu'un qui va préparer une épreuve d'ultra cyclisme. En ultra trail et donc en course à pied, on va être souvent rattrapé par la blessure si on s'entraîne un petit peu trop, tu vois. Alors qu'en cyclisme, on peut charger un petit peu plus, on aura moins ce phénomène-là, à part si un vélo est mal réglé, etc. Enfin, voilà. Maintenant, globalement, moi, je parle plutôt de s'entraîner un petit peu, mais tu vois, de façon très régulière tout au long de l'année. Et pour moi, c'est comme ça qu'on construit un sportif d'ultra-endurance. Plutôt que d'avoir, tu vois, des phases de grosses charges, alors bien évidemment, on va y avoir recours, ce qu'on appelle un petit peu les week-end chocs, on va y avoir recours dans une saison, mais globalement, lisser tout au long de l'année une charge de travail qu'on va pouvoir assimiler et qu'on va pouvoir réaliser, pour moi, ça, c'est la clé et ça se construit à long terme. C'est-à-dire que des fois, j'ai des sportifs qui viennent me voir qui n'ont pas un passif d'ultra-endurance et qui me disent, ben voilà, je fais un ultra-trail de plus de 100 km, c'est dans 6 mois. Voilà. Comment on construit ça? J'aime pas travailler de cette manière-là et j'aime travailler vraiment avec tous les athlètes que j'accompagne sur le long terme et avoir un projet vraiment à long terme. Et on en revient à la préparation mentale, c'est-à-dire que on parle toujours de court, moyen et long terme avec, au niveau des objectifs. Et ben c'est pareil au niveau, au niveau de l'entraînement. On va construire ça avec des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme, mais on va être toujours dans cette notion de progressivité au niveau de l'entraînement, mais surtout de régularité tout au long de l'année et tout au long de la saison pour avoir cette capacité d'ultra-endurance.
Ouais, si on fait le lien un petit peu avec le physique et le mental que tu disais, c'est-à-dire que s'il y a des objectifs à court, moyen et long terme, ces objectifs, c'est en quelque sorte un peu des rites de passage où on valide des étapes ou pas d'ailleurs, mais en les validant et en construisant le cheminement, on se donne de la confiance pour l'étape suivante.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc encore une fois, tout est lié, tu vois. C'est-à-dire qu'en construisant à long terme ton physique, eh ben, tu vas valider, comme tu l'as dit, des étapes, et notamment au niveau des étapes, au niveau mental. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de quelqu'un qui pratique un trail de, on va dire, court de 20, 30, 40 km à un ultra tout de suite. Tu vois, il y a vraiment des marches entre les deux, et des marches physiques, mais aussi des marches au niveau mental. Tu vois. Donc, chaque fois, le corps va s'adapter et le mental va s'adapter par rapport à l'appréhension que tu as ressentie sur cette épreuve-là ou sur cet entraînement.
Oui, bien sûr, c'est comme la confiance, c'est comme si tu veux tout de suite escalader une immense échelle et que tu as le vertige, bah, peut-être qu'au début, il faut attaquer par les trois premières marches, sinon derrière, pour arriver à avoir la confiance, c'est compliqué. Et pour l'anecdote personnelle, bon, je l'ai déjà parlé sur le podcast, mais je peux que te rejoindre, parce que moi qui fais, pourtant j'ai un vrai passif d'endurance, mais pas d'ultra-endurance, j'ai fait un ultra l'an passé préparé en 6 mois, même si je bougeais un peu le reste de l'année, sans expérience sur des distances intermédiaires de 70-80, eh ben, ce qui m'est arrivé au 70e kilomètre, où je me suis mis une vraie galère, si j'avais validé des étapes avant, ça ne me serait probablement pas arrivé. Et du coup, ouais. Je peux que par mon expérience, j'ai fini hein, quand même, mais que par ton expérience, mon expérience personnelle, les coachs ont fait des conneries hein, aussi, évidemment. Du coup, je voulais essayer, mais je peux que abonder dans ton sens.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal. Enfin, quand quelqu'un me contacte, je prends toujours le temps avant de faire un entretien préalable pour déjà voir le passif, déjà ouais. Voir si l'objectif il est cohérent avec ben, justement ce passif-là et ce qui a été réalisé les années précédentes, ce qui a été réalisé tout au long de la vie, parce qu'on peut avoir des personnes aujourd'hui qui démarrent des épreuves d'ultra-endurance sans avoir fait de sport particulièrement après 30 ans, tu vois, ou 40 ans. Donc ça, il faut le prendre en considération et ils n'ont pas construit, entre guillemets, leur carrosserie pour pouvoir résister à ces types d'épreuves.
Ouais, et je pense surtout à l'entraînement nécessaire à ces types d'épreuves aussi.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important vraiment d'avoir les bons objectifs pour éviter de se tromper et puis pour éviter, comme tu l'as dit, comme toi, tu l'as expérimenté, de se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément agréables. Et souvent, on voit ça, c'est-à-dire que des personnes se dégoûtent un petit peu de l'ultra ou autre parce que justement, il n'y a pas eu ces strates avant qui permettent d'appréhender ce que c'est réellement, quoi.
Oui, bien sûr, et évidemment. Et après, derrière, comment dire, ces étapes-là, c'est super important aussi de les valider sur cette confiance. Et bien sûr qu'on a toujours l'anecdote, on connaît tous quelqu'un qui a fait un ultra-trail alors qu'il s'est mis à courir il y a 2 ans, pour qui ça s'est bien passé. Ou on ne sait pas d'ailleurs dans 5 ans si ça se passera toujours bien, mais peut-être que oui. Mais ça reste des exceptions. Et je pense qu'on tire toujours dans le positif et dans le négatif d'ailleurs une règle générale de contexte exceptionnel, mais la norme, elle est quand même qu'il faut prendre le temps.
Oui, tout à fait. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on trouve toujours ce côté exception de la personne qui va réaliser un ultra au bout de 1 ou 2 ans de pratique, mais ce n'est pas la majorité. Il faut prendre son cas particulier, son cas individuel. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que Vous voulez pratiquer uniquement pendant 2 ou 3 ans ou est-ce que vous avez une vision à long terme et une vision à long terme aussi qui est quand même en accord avec les principes de santé? Parce que voilà, moi personnellement, là, je viens de terminer vendredi, c'est tout frais, la Race Cross France. Alors je ne sais pas si tu connais,
c'est un énorme truc en vélo, ouais. J'y suis un peu.
Voilà, ça, ouais. C'est une épreuve de 2500 km. Donc voilà, j'ai fait 7 jours et 16 heures d'épreuve parce que c'est ce que je dis toujours, c'est que le meilleur laboratoire, c'est moi, pour pouvoir transmettre aux athlètes que j'accompagne. Il faut que j'expérimente et c'est un
Bien
de mes
sûr.
moteurs, justement. Voilà. Et donc, pour en revenir à ça, on ne passe pas d'une race cross France qui dure 7 jours comme ça. Donc, il y a eu des étapes en amont et il faut bien le considérer. Et il faut se dire que ce sport-là, quand on est dans des efforts très très longs comme ça, ce n'est pas forcément le côté santé. Donc déjà, tout au long de l'année, il faut essayer justement de limiter un petit peu les effets négatifs que peuvent avoir ce type d'épreuve sur l'organisme. Donc pour durer à long terme, moi j'associe toujours le côté quand même santé et vision à long terme de l'entraînement et de la performance, quoi.
Bien sûr, on fait pas, a priori, la plupart des gens, on fait pas du sport pour finir pété en deux. Alors, bien sûr, plus on est jeune, plus on encaisse, mais toi comme moi, je pense qu'on vieillit aussi. Donc, on se rend plus compte de certaines choses. Et bien sûr, ça, c'est, ça paraît primordial. Et juste pour redire, le premier point que je note, c'est effectivement la régularité. En tout cas, d'avoir une régularité à l'entraînement. Et la deuxième chose, est-ce que pour préparer des épreuves type, on va prendre l'ultra trail par exemple, parce que c'est le plus traumatisant, est-ce qu'il y a pour toi en tout cas, ou pour ton expérience, un volume minimal, une fréquence minimale par semaine, un type d'entraînement obligatoire, un type d'entraînement superflu?
Le volume minimal, c'est, comme je le disais, c'est très individuel en fait.
Ouais.
Et il faut toujours en prendre, encore une fois, l'individu dans sa globalité. Pour une personne s'entraîner 5 heures, ça va déjà être trop pour lui, ça va être trop stressant pour lui parce qu'à côté, dans sa vie, il a des grosses responsabilités professionnelles, familiales, etc. Et donc, il n'a pas forcément beaucoup de temps à allouer à la pratique. Donc, moi, j'ajuste toujours et je dis toujours ajuster vos entraînements, votre charge, votre préparation en fonction de votre rythme de vie. Et quelqu'un qui me dirait, je veux préparer un ultra, vraiment, on va prendre l'ultra trail du Mont Blanc, qui est très connu, par exemple, mais qui a que, on va dire, 3, 4, 5 heures à allouer par semaine, ben, je lui déconseillerais, en fait. Je lui dirais, ce n'est pas forcément adapté à toi, parce que déjà, à côté, tu as trop de stress, et ça, ce stress-là, ne va pas te permettre d'être pleinement dans tes capacités le jour J pour préparer ce type d'épreuve-là qui est très très long. Donc un volume minimum à te dire, je te dirais, c'est très compliqué et c'est très individuel, mais effectivement quand on a un volume, voilà, si on parlerait de 3 à 5 heures par semaine, pour moi ce ne serait pas suffisant parce qu'il y a des séances quand même clés à rentrer, il y a la sortie longue, il y a des séances d'intensité, des séances spécifiques en renforcement musculaire, etc., etc., l'entraînement croisé aussi qu'on peut rajouter. Donc on peut, oui, effectivement, arriver à trouver une bonne formule, mais le volume, à un moment donné, il va falloir quand même le mettre en place pour pouvoir réaliser ce type de preuve, c'est indéniable.
Oui, bien sûr. Bah, c'est rigolo parce qu'on voit tous la pub en ce moment sur Instagram d'un coach où il ne faut pas faire de fractionné et il faut courir
une fois dans
la semaine. Ça suffit. Alors, ça lui va sûrement très bien, lui. Je ne sais pas si ça lui ira dans 5 ans et je ne sais pas si ça ira aux gens, mais.
Et puis tu sais, c'est un peu le souci, enfin le souci, c'est un peu aujourd'hui, on veut un petit peu tout de suite, maintenant, le plus simplement possible et sans effort. Moi, quelqu'un qui me contacte comme ça, je lui dis, écoute, un ultra, c'est dur, voilà, il va falloir s'entraîner dur, voilà. On peut prendre du plaisir parce que moi, j'associe toujours le côté jeu et plaisir au centre de la pratique, mais indéniablement, quelqu'un qui me dit un UTMB, je lui promets pas une balade de santé non plus. Donc, automatiquement, à l'entraînement, il va falloir rentrer des séances qui sont difficiles si on veut terminer ce type d'épreuve.
Ouais, tout à fait. Et justement, pour les gens qui nous écoutent et qui hésiteraient peut-être à se lancer dans l'ultra ou qui se posent des questions, on va admettre qu'on va partir sur un ultra de 20 heures, par exemple, en durée approximative. Est-ce que,
Ouais.
souvent, il y a la question, c'est pas possible de faire des séances de 20 heures. Pour toi, les sorties longues et les sorties clés, est-ce que tu raisonnes en kilométrage, en durée, en cumul de densité sur le week-end avec des week-end chocs? Comment tu peux raisonner un peu par rapport à tout ça?
Alors, ça dépend. Ça
Ouais.
dépend de la personne, de son allure. Ben ça, je le quantifie avec elle. Mais effectivement, j'aime bien raisonner soit en volume horaire, soit en kilométrage aussi, parce que j'estime que psychologiquement, par exemple, tu fais une sorte, tu fais une, un, tu prépares un trail qui fait 100 km, on va dire. Tu vois, arriver à valider, par exemple, à l'entraînement, une sortie de 40 ou 50 km avec sensiblement un dénivelé, on va dire équivalent à ce que tu vas retrouver sur la compétition, pas le même dénivelé, mais on va dire la même topographie que tu vas retrouver, ça rassure quand même dans la tête parce qu'on se dit, ah, j'ai quand même réussi à faire 40 à 50 km, tu vois. Et après, on peut raisonner sur la semaine effectivement, en volume horaire. Et moi, j'aime bien implémenter des week-ends un peu plus chargés où, par exemple, on va essayer ouais, on prépare un 120 km, on va essayer de se rapprocher sur la semaine ou voire sur 3 à 4 jours de la distance qu'on va réaliser en compétition, mais dispatchée en plusieurs jours, tu vois. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place et comme toujours, je l'adapte en fonction de la personne parce qu'effectivement, une personne et une autre ne vont pas faire le même temps horaire sur 40 ou 50 km, tu vois. Donc, effectivement, ça, c'est toujours à adapter, mais globalement, il va falloir passer par du volume, ça, c'est indéniable.
Ouais, bien sûr, les gens aiment faire des raccourcis. Alors souvent, les gens qui font des raccourcis, ils n'ont pas fait d'endurance ou d'endurance longue. Mais à un moment, alors bien sûr qu'il y a, le volume a ses limites et que le corps a
Bien
ses
sûr.
limites, encore que. Mais bien sûr que, en tout cas pour l'endurance et l'ultra-endurance, s'entraîner moins mais s'entraîner mieux, ça aussi ses limites. À un moment, le
Ben,
volume va quand même être prioritaire.
ah ben, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est aussi, ben, on cherche un petit peu la solution de facilité. Alors oui, s'entraîner moins pour s'entraîner mieux, comme tu le dis, voilà, c'est un très bon slogan. Mais à un moment donné, si on veut aller sur ce type d'épreuve, on ne peut pas faire des sorties de 2 heures. Ça ne fonctionnera pas, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Donc,
Oui,
ce n'est pas possible.
ne serait-ce que quand tu parles de la faculté mentale, quand tu es parti pour passer 20 heures dehors ou 15 heures,
Ah ouais.
si tu n'es pas habitué à y aller 7 ou 8 heures, par exemple, il y a de fortes chances que le jour où tu vas y dépasser les 7-8 heures, ça va être
Ah bah
compliqué
ouais.
pour toi.
Exactement. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi, ben, on en a parlé tout à l'heure, mais sur une sortie de 2 heures, tu ne peux pas travailler tes aptitudes à l'entraînement digestif. Tu ne peux pas avoir la faculté à appréhender les phases peut-être de fatigue, de nuit, etc. Et tout ça, il faut l'appréhender avant parce que sinon, ben, ça restera un stress inconnu pour l'organisme le jour J. Et donc, automatiquement, ça t'amènera à avoir des difficultés, c'est indéniable.
Ouais, bien sûr. Alors, autant s'entraîner à ne pas dormir, ça n'a aucun sens
Non,
pour moi, pour la
aucun sens pour la
santé.
récupération,
Ouais.
ouais, ça
Mais
aucun
par
sens.
contre, s'entraîner de temps en temps à y courir de nuit, là, j'en ai un qui prépare le GRP, les Pyrénées. Bon, il habite à
Ah, super.
Paris, et ben il va
Ouais.
se faire. On a des, moi j'appelle ça des blocs, hein, c'est pas les week-end chocs, mais de la densité par moment. Et là aussi, je crois que ça arrive la semaine prochaine ou dans 2 semaines de tête. Ben, il va falloir qu'il aille à Paris courir la nuit, simplement pour s'habituer à connaître au moins une fois cette sensation-là.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben ça aussi. Tu vois, par exemple, en préparant, voilà, on reprend l'exemple d'un ultra en trail, eh ben, on va essayer de se trouver en amont des sous-objectifs qui vont te permettre en compétition de travailler ça aussi. Tu vois, ça, moi, avec les athlètes, je le fais souvent. Par exemple, un UTMB, ben, mettre peut-être 2 mois avant une compétition préparatoire qui va te permettre justement d'appréhender au mieux tous ces éléments-là. Et je te dirais même que c'est pour moi indispensable parce que le côté mettre un dossard et juste réaliser un entraînement, c'est pas du tout la même chose. T'es pas dans les mêmes conditions mentales au départ, tu vois. C'est-à-dire que
C'est juste.
là, c'est une grosse feuille de répétition avant. Je te parle de la semaine avant compétition, la préparation de ton matériel, qu'est-ce que je vais manger avant, qu'est-ce que je vais manger pendant, etc. Tu n'es jamais autant focus que sur une compétition par rapport à un entraînement.
Et d'ailleurs, même un truc tout bête, hein, je vais mal dormir la veille de ma compète, comme ça arrive un peu à peu près tout le monde en
Ouais,
général. Et
ouais.
ben, la compète préparatoire, elle sert à ça aussi.
Exactement, à savoir appréhender ça. Et puis il faut savoir que voilà, c'est pas la veille de la compétition que le sommeil il se prépare, mais c'est bien bien en amont comme la nutrition. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est ce que je dis aux athlètes. C'est pas la veille de course qui est le plus important, mais justement capitaliser au mieux en amont et les jours avant, quoi.
Ouais. Mais pour terminer sur ça, moi, sur l'expérience que j'ai eue de mon ultra, mes sorties longues, là où elles m'ont le plus servi, c'est pas tant sur le physique en tant que tel, parce que je pense que ta fréquence d'entraînement, ça peut suffire, mais ne serait-ce que sur le mental, tout ne s'est pas mal passé pour moi non plus, toujours là, mais ne serait-ce que sur le mental et sur la nutrition, savoir ce que tu es capable de bouffer au bout de 6 heures et ce que tu n'es pas
Ouais.
capable de bouffer, mais ça, c'est juste
Ouais.
fondamental, je pense.
Ça, c'est un gros point noir hein, en ultra, c'est-à-dire que la nutrition, on l'oublie et on ne le met pas au centre de la pratique. Mais plus c'est long et plus ça va avoir un impact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas que seulement compter sur ses aptitudes physiques. Et moi, souvent, j'ai le sportif qui vient me voir et me dit, il va raisonner à l'instant T de la compétition, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais manger pendant? Mais en fait, le siège de ta performance, le siège de ta digestion, il se construit bien en amont aussi. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une construction à long terme. Et c'est justement le facteur nutritionnel là qui va te permettre de bien digérer à l'effort et d'avoir les meilleures aptitudes, on va dire, de performance, pour éviter après de se retrouver ben, soit en déficit énergétique. Et surtout, le gros point noir, c'est ces fameux problèmes digestifs. Donc tout ça, moi j'appelle l'entraînement digestif, c'est important de le mettre en place aussi, au-delà de l'entraînement physique.
Ouais, c'est comme on teste jamais des nouvelles chaussures le jour de l'ultra, ben on teste
Exactement.
jamais des nouvelles choses à manger.
Exactement.
Enfin, même si en ultra, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient dur. On bouffe ce qu'on peut aussi, mais au plus on a, au mieux on l'a testé en amont, au mieux c'est quand même, je pense.
Ouais, tout à fait. Et puis après, il y a cette notion de quelle quantité de glucides je suis capable d'implémenter par heure d'effort. Beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est. Et ça, à l'entraînement, s'entraîner. Alors moi, j'aime bien parler de deux stratégies. La stratégie un peu lipolyse, où on va voilà, orienter le corps qui va utiliser davantage les graisses comme source d'énergie. Alors là, il y a plusieurs stratégies d'entraînement. Ça peut être le sleep low. Ça peut être aussi les entraînements à glycogène bas, ça peut être des entraînements longs sans glucides. Voilà, tout ça va nous amener justement à utiliser davantage les graisses comme source d'énergie et aussi mentalement savoir appréhender ce que c'est un petit peu le manque à l'effort parce que ça, on peut le retrouver sur des épreuves d'ultra-endurance. Et après, à contrario, il y a faire des entraînements digestifs où on va donner davantage de glucides à son organisme
Lucide.
pour trouver un petit peu la fourchette optimale qu'on va pouvoir implémenter par heure. Alors, certains vont pouvoir avoir 30, 40 grammes, d'autres 50, 60, voire plus. Après, c'est tout à chacun de trouver sa juste mesure. Mais effectivement, plus on va pouvoir implémenter de glucides par heure, mieux on va être au niveau performance. Et mieux on va appréhender l'effort qu'on est en train de produire, quoi.
Ah, mais c'est rigolo que tu dises ça parce que si je comprends bien ce que tu dis, selon comment chacun réagit, on peut pas ingérer la même quantité de glucides. Et
Tout à fait.
certains vont être efficaces sur de la lipolyse, d'autres moins. Et ce qui est rigolo,
Ouais.
c'est que maintenant, commercialement, alors on a d'un côté, je citerai aucune des deux marques, une marque qui
Ouais.
nous promet 80 grammes de glucides par heure
Ouais.
facilement assimilables, et une autre
Et une
marque
autre.
où c'est que du gras. Et
Ouais,
les deux, c'est parfait pour tout le monde.
ouais. Ouais. Et ben moi, j'ai écrit un article justement et j'invite les auditeurs à aller le voir. Et j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. J'appelle ça la flexibilité énergétique. Et pour moi, il faut être capable de faire les deux aujourd'hui. C'est-à-dire que comme avant, on essaye de mettre dans des cases et on oppose un petit peu tout. Savoir utiliser sa lipolyse, c'est une force, c'est une clé, certes, pour l'ultra-endurance. Mais savoir implémenter une bonne dose de glucides aussi, bah ça reste un atout encore supplémentaire. Donc jouer avec les deux nous permet réellement d'être dans de meilleures dispositions à l'effort.
Ok. Ben, tu m'enverras, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et
Ouais, pas de souci.
justement, on passe un peu à la question suivante, qui est, même si tu as beaucoup développé avant, mais tu vas pouvoir y répondre parce qu'on a de plus en plus le cas. Moi, j'ai des demandes que je refuse ou que j'aiguille différemment. Est-ce que c'est
Ouais.
possible d'enchaîner plusieurs épreuves d'ultra, trail ou cyclisme, même si je pense qu'il y a une différence, dans une
Ouais.
saison? Et si oui, quels seraient les pièges à éviter? Et est-ce qu'il y a un nombre quand même à ne pas dépasser?
Alors pareil, on va te sortir des exemples. Oui, lui, il fait un ultra tous les
Non.
mois ou toutes les semaines. Ouais. C'est très individuel aussi, mais pour moi, pour être vraiment pleinement dans ses aptitudes physiques et aussi au niveau focus mental, on ne peut pas être focus tous les mois sur une épreuve d'ultra-endurance. Ça demande énormément d'énergie physique, mais aussi énormément d'énergie mentale. Là, comme je le disais avant, je sors de la Race Cross France. Avant l'épreuve, ça m'a demandé un focus en termes de préparation. Pendant l'épreuve, ça demandait un focus aussi extrême. Je me verrai pas repartir là dans une semaine sur une épreuve. Il faut que je laisse un petit peu mon corps souffler, tu vois. Donc
Est-ce que
moi,
tu
je
dois déjà
devrais.
repartir à l'entraînement dans une semaine?
Voilà, non, je me laisse. Moi, j'aime bien laisser après les épreuves d'ultra et je fais ça avec tous les athlètes que j'accompagne. On laisse minimum, je dis bien minimum, à peu près une semaine sans sport du tout, donc repos complet, et on reprend doucement après selon l'envie de la personne. Mais il faut que l'envie soit au centre de la démarche pour pouvoir reprendre, quoi, tu vois. Donc, des fois, il faut en freiner un petit peu plus que d'autres. Je suis dans ce cas-là aussi, il faut que je me freine parce que je suis mon propre coach. Donc là, mais là, je t'avoue que je n'ai pas envie de repartir tout de suite à l'entraînement, donc j'ai besoin
Je te
d'assimiler.
comprends.
Mais pour revenir à ta question, je te dirais que pour être pleinement capable de produire le meilleur effort sur une épreuve, je te dirais, allez, 3. Pour moi, c'est déjà énorme en termes de sachant qu'il y a les courses de préparation, les entraînements. Je parle trois objectifs U3, 2 à 3 objectifs ultra, c'est déjà beaucoup.
Ouais, en plus de ça, c'est marrant, tu disais, c'est vrai qu'il y a le cas, après chacun a ses propres motivations, mais de certains qu'enchaînent bientôt toutes les semaines ou en tout cas tous les mois. Mais c'est aussi à l'image de la société où ils font une
Ah ben oui, on est
boulimie
consommateurs.
de c'est des consommateurs, c'est une boulimie consumériste, je vais y arriver. Après, je juge pas, hein, c'est différent, mais en plus, ce que je trouve intéressant, et sur moi et chez les gens que je coach dans l'ultra, c'est que tu as une progression, tu as un cheminement, tu grandis, tu apprends des choses. Et ça, il faut le digérer après, derrière. Je trouve, hein, c'est un point de vue,
Ouais,
mais c'est important.
tout à fait. Et puis, tu vois, on a le temps en fait, on a les années pour pouvoir faire les courses. Et il faut avoir aussi un petit peu cette frustration et puis dispatcher un petit peu ces compétitions sur plusieurs années. C'est aussi bien, tu vois. Moi, je reprends mon exemple personnel, mais je regrette d'avoir fait des courses un petit peu trop rapidement, tu vois, parce que tu arrives, tu les fais et puis tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais après, quoi, en fait, tu vois.
C'est vrai.
Donc, entretenir un petit peu ce feu de frustration, c'est aussi intéressant. Tant au niveau physique pour la préservation du corps et de la santé, mais aussi au niveau mental pour garder un petit peu ce feu qui nous anime et qui nous amène à faire ce type d'épreuve-là, tu vois.
Ouais, mais en plus de ça, le problème qu'il y a avec les gens, et moi je suis pareil, hein, parce que je me coach moi-même. Quand on se coach soi-même, on fait toujours trop,
Ouais,
en
on n'est
tout
pas
cas.
objectif des fois.
Ouais. Mais même avec les gens que je coach, c'est qu'à partir du moment, l'endurance, à partir du moment où tu fais souvent, tu fais des sorties longues, tu es rarement très fatigué, et paradoxalement, et tu as toujours envie d'y retourner, toujours, toujours, toujours. Et moi, des gens, quick, si tu m'écoutes, je le freine là, écrit par Verbier et après l'UTMB. On a toujours envie d'y retourner parce que le lundi, il fait un trail de 40 bornes. Ben, le lundi, il n'a mal nulle part. Donc, il veut y retourner. On veut toujours, toujours, toujours y retourner. Et ça peut devenir un cercle un peu vicieux.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a aussi ce phénomène de société, tu vois, on a des vies qui sont très aseptisées quand même, tu vois. Donc en fait, c'est tellement des doses intenses de changement. Là, je reprends l'exemple de la Race Cross France, mais c'est très intense pendant 7 jours. On est hors du temps. tu vois. Et on peut retrouver ça, ces doses de bonheur-là, dans ces épreuves-là. Ouais. Et donc, bah, effectivement, on n'a plus envie de revenir à ce carcan qu'on se met tout au long de la semaine. Et c'est un peu une porte de sortie, ces compétitions-là. Et donc, bah, on est dans cette notion de consommation et on veut retrouver notre dose, quoi, entre guillemets.
Ouais, bon, après, on ne va pas se mentir. Vaut mieux faire ça que de rester dans son canapé, a priori.
Tout à fait, ouais, tu as raison. C'est tout à fait vrai, ça.
Ouais. Et d'ailleurs, en arrivant en fin d'émission, ça me permet de rebondir et la transition est toute trouvée sur ma question que je pose pour clôturer avec tout le monde. Quel conseil tu pourrais donner aux gens, mais de manière un peu plus générale, hein, sur la pratique de leur sport ?
Ok, de façon générale. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je mets le plaisir au centre de la pratique. Si le plaisir il est là, automatiquement, la progression elle se fera. Donc, bien identifier le sport qui nous fait déjà plaisir, parce que c'est plus facile de pratiquer un sport quand ça nous passionne et quand on aime le faire, qu'inversement. Donc, essayez d'éviter de regarder ce que font les voisins, mais plutôt de ressentir ce que nous, profondément, on a au fond de soi et on a envie d'aller. Et donc, ça, c'est déjà, pour moi, la clé de la réussite, mettre le plaisir au centre de la pratique. Et après, automatiquement, le cheminement, il va se mettre en place derrière.
Ouais, c'est une bonne, c'est une réponse que j'ai régulièrement, mais qui fait beaucoup sens et je me retrouve beaucoup là-dedans. Si les gens veulent te retrouver, je mettrai le lien vers ton article, le lien vers ton site internet, ton Instagram et tout. Et en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger. On pourrait échanger des heures.
Des heures et des heures. Ouais. Peut-être une prochaine fois d'ailleurs.
Exactement, pas de souci.
Allez, au revoir à tout le monde.
Merci Nicolas, salut.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.